Chapitre 17. Faut-il privilégier la viande ou les végétaux ? En 1919, Blake Donaldson, cardiologue new-yorkais, commença à prescrire des régimes riches en viande à ses patients obèses et en surpoids, qu'il appelait les « gros cardiaques », parce qu'il y a 90 ans, il ne faisait déjà aucun doute que ces hommes étaient des candidats à l'infarctus. Donaldson raconte qu'il s'était rendu au Muséum d'histoire naturelle de New York et avait demandé aux anthropologues qui y travaillaient ce que mangeaient nos ancêtres préhistoriques. On lui avait répondu « la viande la plus grasse qu'il pouvait tuer », avec un complément minime de racines et de baies pour diversifier. Donaldson en avait déduit qu'il fallait que la viande grasse constitue l'élément indispensable de tout régime restrictif, et il avait prescrit à ses patients une alimentation à l'avenant, de 100 à 250 grammes trois fois par jour, accompagnée d'une petite portion de fruits ou de pommes de terre en guise de baies et de racines. Donaldson prescrivit ce régime jusqu'à sa retraite 40 ans plus tard, et guérit durant cette période, c'est en tout cas ce qu'il affirmait, les problèmes de poids de 17 000 patients. Que Donaldson ait été ou non en avance sur son temps, l'argument selon lequel nous devrions manger ce pour quoi notre évolution nous a programmés n'a rien perdu de sa force depuis son époque. L'idée qui sous-tend cet argument est que plus longtemps un type d'aliment a fait partie de l'alimentation humaine, plus il nous est sans doute profitable et moins il nous est dommageable, c'est-à-dire mieux nous y sommes adaptés. Et qu'à l'inverse, lorsqu'un aliment est nouveau dans l'alimentation humaine, ou nouveau en termes de quantité, il est probable que nous n'ayons pas encore eu le temps de nous y adapter et qu'en conséquence, il nous soit préjudiciable. Cette logique sous-tend implicitement la grande majorité des recommandations de santé publique en matière de prévention des maladies chroniques. Dans les années 1980, elle a été présentée, explicitement cette fois, par l'épidémiologiste britannique Geoffrey Rose, dans deux articles qui s'inscrivent parmi ceux ayant eu la plus grande influence sur la politique de santé publique. Strategy of Prevention, la stratégie de la prévention, et Sick Individuals and Sick Populations, individus malades, populations malades. Rose y disait que les seules mesures que les autorités de santé publique devraient recommander pour prévenir les maladies chroniques étaient celles qui éliminaient les facteurs anormaux et restauraient la normalité biologique, c'est-à-dire les conditions pour lesquelles nous sommes vraisemblablement génétiquement adaptés. Expliquant, de telles mesures normalisatrices pourraient être considérées comme bénéfiques et nous devrions être prêts à les défendre sur la base d'une probable présomption de bénéfice. La question qui se pose est donc de savoir quelles sont ces conditions pour lesquelles nous sommes vraisemblablement génétiquement adaptés. Il s'avère que ce que Donaldson supposait en 1919, c'est-à-dire que nos gènes ont bel et bien été façonnés par les 2,5 millions d'années au cours desquelles nos ancêtres ont vécu comme chasseurs-cueilleurs avant l'avènement de l'agriculture, il y a de cela 12 000 ans seulement, est jusqu'à aujourd'hui considéré comme vrai. Cette longue période est connue sous le nom de paléolithique, ou âge de pierre, car son début coïncide avec le développement des premiers outils de pierre. Elle couvre à elle seule plus de 99,5% de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire plus de 100 000 générations de chasseurs-cueilleurs, face à 600 générations d'agriculteurs et à seulement 10 générations depuis le début de l'ère industrielle. Nul ne conteste que la période agricole, qui ne couvre que le dernier demi-centième de l'histoire de notre espèce, ait eu très peu d'effet sur notre constitution génétique. Ce qui compte, c'est ce que l'être humain a mangé durant les 2,5 millions d'années qui ont précédé l'agriculture, c'est-à-dire au paléolithique. Certes, la question ne pourra jamais être élucidée définitivement puisque cette période a précédé l'apparition des premiers documents écrits. Mais il est possible, comme le font les anthropologues de la nutrition, depuis le milieu des années 1980, de faire appel aux sociétés modernes de chasseurs-cueilleurs en lieu et place de nos ancêtres du paléolithique. En 2000, des chercheurs américains et australiens publièrent une analyse des régimes alimentaires de 229 populations de chasseurs-cueilleurs ayant vécu de façon traditionnelle suffisamment tard dans le XXe siècle pour que leur mode d'alimentation ait pu être étudié par des anthropologues. Jusqu'à aujourd'hui, cette analyse est considérée comme la plus complète jamais menée sur l'alimentation des chasseurs-cueilleurs modernes et par conséquent, sur la nature des régimes pour lesquels nous sommes vraisemblablement génétiquement adaptés, pour reprendre les termes de Geoffrey Rose. Parmi les enseignements de cette analyse, trois répondent à la question de savoir si un régime qui nous fait mincir, donc un régime exempt de glucides adipogènes, peut être par ailleurs bon pour la santé. Le premier enseignement qui nous intéresse ici est le suivant. Lorsque et où c'était écologiquement possible, les chasseurs-cueilleurs consommaient de grandes quantités de nourriture d'origine animale. En effet, parmi les 229 populations étudiées, une sur cinq tirait pratiquement 100% de sa subsistance de la chasse et de la pêche. Plus de 85% de leurs calories provenaient de la viande ou du poisson, et même 100% pour certaines. À eux seuls, ces chiffres montrent qu'il est possible de survivre, voire même de vivre fort bien, avec une alimentation totalement dénuée de fruits, de légumes et de céréales. Seuls 14% de ces sociétés de chasseurs-cueilleurs tiraient plus de la moitié de leurs calories d'aliments d'origine végétale. Et aucune n'était strictement végétarienne. En moyenne, ces populations consommaient environ 2/3 de calories d'origine animale et 1/3 d'origine végétale. La seconde leçon à tirer de cette analyse concerne la composition de ces régimes en termes de matières grasses et de protéines. Depuis 50 ans, on nous a dit et redit, via notamment la pyramide alimentaire, qu'il fallait manger des matières grasses avec modération et Dieu sait que nous nous y sommes employés. En moyenne, 15% des calories que nous consommons dans les sociétés de type occidental proviennent aujourd'hui des protéines, 33% des lipides et le reste, soit plus de la moitié, des glucides. Mais les régimes des chasseurs-cueilleurs des temps modernes, de même très probablement que ceux de nos ancêtres de l'âge de pierre, étaient bien éloignés de ce schéma. Comparés aux nôtres, ces régimes étaient riches, voire très riches, en protéines, 19 à 35% de l'apport calorique, ainsi qu'en matières grasses, 28 à 58% des calories. Jusqu'à 80% des calories pouvaient provenir des matières grasses chez certaines de ces populations, notamment les Inuits, avant qu'elles ne commencent à commercer avec les Européens, et à la suite de cela, à introduire le sucre et la farine dans leur alimentation. Cette analyse nous apprend que, pour se nourrir, les chasseurs-cueilleurs privilégiaient les animaux les plus gras qu'ils pouvaient chasser, et qu'ils privilégiaient également les morceaux les plus gras, parmi lesquels les viscères, la langue ou la moelle, de ces animaux dont ils mangeaient pratiquement toute la graisse. En d'autres termes, ils préféraient les viandes grasses et les abats aux viandes maigres, que nous privilégions communément aujourd'hui. La troisième leçon que l'on peut tirer de cette analyse est que, comparés aux standards occidentaux, les régimes de ces populations de chasseurs-cueilleurs étaient pauvres en glucides. Ceux-ci représentaient en moyenne 22 à 40% des calories. L'une des raisons les plus évidentes en est, comme nous l'avons dit, que ces chasseurs-cueilleurs préféraient la viande s'ils pouvaient s'en procurer, et une autre que les aliments provenant de la cueillette ont un contenu glucidique relativement faible, comparé aux aliments riches en farine et en féculents que nous mangeons aujourd'hui. Tous les aliments d'origine végétale que ces populations ramassaient dans la nature, graines, fruits à coque, racines, tubercules, bulbes, diverses parties de végétaux, fruits, avaient ce que les nutritionnistes appellent aujourd'hui un index glycémique bas. Ils ne faisaient augmenter la glycémie que très lentement, ce qui entraînait une réponse insulinique également lente et modérée. Non seulement donc ces chasseurs-cueilleurs mangeaient relativement peu de glucides, mais les glucides assimilables qu'ils consommaient étaient de surcroît étroitement associés à des fibres non digestibles, ce qui rendait la grande majorité de ces aliments d'origine végétale très difficiles et très lents à digérer. Un des arguments sérieusement envisagés de nos jours pour expliquer l'invention de la cuisson est d'ailleurs qu'elle aurait été utilisée à l'origine pour rendre mangeables tubercules et autres végétaux, et que ce n'est que plus tard que l'on aurait commencé à faire cuire la viande. Les glucides consommés par les chasseurs-cueilleurs n'étaient donc pas adipogènes. Ce que l'on peut affirmer suite à cette analyse, c'est que l'alimentation des chasseurs-cueilleurs était complètement différente de celle que l'on nous recommande aujourd'hui et qui est, elle, riche en glucides, en féculents faciles à digérer et en céréales, pommes de terre, blé, riz, maïs, etc. En fin de compte, tous les aliments riches en glucides que, se fondant sur les notions fondamentales de la prise de poids ainsi que les données empiriques récoltées, au moins jusqu'aux années 1960, on ne peut que classer comme adipogènes, sont des apports très récents à l'alimentation humaine. En effet, nombre d'entre eux ne sont apparus qu'au cours des derniers siècles, qui ne représentent que le dernier millième de centième de nos 2,5 millions d'années sur la Terre. Ce n'est qu'après la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb que le maïs et les pommes de terre, originaires du Nouveau Monde, se répandirent en Europe puis en Asie. Quant aux machines à raffiner la farine et le sucre, elles ne datent que de la fin du XIXe siècle. Il y a 200 ans, on mangeait moins d'un cinquième du sucre que nous consommons aujourd'hui. Même les fruits que nous mangeons aujourd'hui sont très différents des espèces sauvages consommées par les chasseurs-cueilleurs, les modernes comme ceux du Paléolithique. Et de surcroît, on peut désormais se les procurer tout au long de l'année alors qu'autrefois, on n'y avait accès que pendant quelques mois, à la fin de l'été et en automne en ce qui concerne les régions bénéficiant d'un climat tempéré. Bien qu'aujourd'hui les nutritionnistes considèrent généralement qu'un régime sain doit comprendre une part importante de fruits, et que l'on entende fréquemment dire que l'un des problèmes des régimes occidentaux est qu'ils en contiennent trop peu, il ne faut pas perdre de vue que cela ne fait que quelques milliers d'années que l'humanité cultive des arbres fruitiers. Il faut se rappeler aussi que les fruits que nous consommons de nos jours, pomme gala, golden ou fuji, poire Williams, orange navel ou de Valence, ont été sélectionnés pour être beaucoup plus juteux et sucrés que les espèces sauvages, ce qui les rend donc également beaucoup plus adipogènes. Le point essentiel que souligne l'analyse présentée ci-dessus est que les aliments modernes qui constituent aujourd'hui plus de 60% des calories totales du régime occidental moyen, céréales, laitages, boissons, huiles végétales, sauces, sucres et sucreries, etc., ne participaient pratiquement pas à l'apport énergétique du régime moyen des chasseurs-cueilleurs. Si nous croyons que notre constitution génétique a son mot à dire concernant ce qui constitue une alimentation saine, alors la raison probable pour laquelle les féculents, glucides raffinés, farine et riz blanc et autres sucres rapidement assimilables nous font grossir est que notre évolution ne nous a pas préparés à les manger et a fortiori à en manger dans les fortes proportions qui caractérisent notre alimentation moderne. Il paraît indéniable que sans ces nourritures, notre alimentation serait meilleure pour notre santé. La viande, le poisson et la volaille, autrement dit les protéines et les matières grasses animales, constitueraient alors les aliments de base d'un régime sain, comme cela semble avoir été le cas pour nos ancêtres vivant il y a 2,5 millions d'années. À l'opposé de cet argument évolutionnaire figure l'expérience faite par les populations qui sont un jour sorties de leur isolation et ont abandonné leur régime alimentaire traditionnel pour adopter une nourriture incorporant le type d'aliments que l'on consomme aujourd'hui quotidiennement dans les pays occidentaux. Les experts de la santé publique parlent à ce propos de transition nutritionnelle, phénomène s'accompagnant invariablement aussi d'une transition pathologique, c'est-à-dire l'apparition d'une série de maladies chroniques, désormais appelées pour cette raison même maladies occidentales. Parmi ces maladies, on compte l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension et les AVC, le cancer, la maladie d'Alzheimer et diverses autres formes de démence, les caries, les maladies parodontales, l'appendicite, les ulcères, la sigmoïdite ou diverticulite, les calculs biliaires, les hémorroïdes, les varices et la constipation. Ces pathologies sont fréquentes dans les pays où l'on se nourrit à l'occidental et où l'on a un mode de vie moderne, tandis qu'elles sont rares, voire même inconnues, dans d'autres types de sociétés. Et lorsque des sociétés traditionnelles adoptent une alimentation et un mode de vie occidentaux, que ce soit dû à des échanges commerciaux ou à des phénomènes de migration volontaire ou forcée, comme l'esclavage, ces pathologies ne tardent pas à y faire leur apparition. Ce lien entre les maladies chroniques et le mode de vie moderne a été noté pour la première fois au milieu du XIXe siècle, lorsqu'un médecin français du nom de Stanislas Tanchou remarqua que le cancer, de même que la démence, semble augmenter à mesure que la civilisation progresse. Aujourd'hui, comme le souligne Michael Pollan, cela fait partie des faits indéniables dans les domaines de l'alimentation et de la santé. L'alimentation occidentale entraîne avec elle des pathologies occidentales, notamment l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires et les cancers. C'est là l'une des principales raisons pour lesquelles les experts de la santé publique pensent que toutes ces maladies, y compris le cancer, sont liées à l'alimentation et au mode de vie et ne résultent pas juste d'un manque de chance ou d'une prédisposition génétique défavorable. Pour acquérir une notion des phénomènes modernes allant dans le sens de cette hypothèse, considérons un instant le cas du cancer du sein. Au Japon, cette maladie est relativement rare, ou en tout cas loin d'être l'épidémie qui sévit chez les femmes occidentales. Mais lorsque les Japonaises émigrent, par exemple aux États-Unis, il suffit de deux générations pour que leurs descendantes présentent le même taux de cancer du sein que n'importe quel groupe ethnique local. Ceci indique que l'alimentation ou le mode de vie américain comporte quelque chose qui cause le cancer du sein. Mais quoi ? Certes, on pourrait supposer que c'est au contraire dans l'alimentation ou la façon de vivre japonaise que quelque chose protège les femmes du cancer du sein. Mais des tendances semblables ont été observées chez les Inuits, chez qui le cancer du sein était pratiquement inexistant jusque dans les années 1960, les Pima, ainsi que dans un grand nombre d'autres populations. Dans toutes ces sociétés, le taux d'incidence du cancer du sein, qui est faible à très faible tant qu'elles se nourrissent de façon traditionnelle, augmente fortement, pour ne pas dire de façon dramatique, à partir du moment où elle s'occidentalise. Loin d'être controversé, ce phénomène est au contraire mentionné dans pratiquement toutes les études traitant des maladies occidentales. Le cancer du côlon est par exemple 10 fois plus répandu dans les zones rurales du Connecticut qu'au Nigeria. la maladie d'Alzheimer beaucoup plus fréquente chez les Américains d'origine japonaise que chez les Japonais vivant au Japon, et deux fois plus chez les Afro-Américains que chez les Africains ruraux. Quelle que soit la maladie occidentale sur laquelle on se penche, lorsque l'on compare son incidence en deux endroits, par exemple un urbain et un rural ou un occidentalisé et un non-occidentalisé, dans deux groupes de population de même âge, cette maladie est toujours plus répandue dans les endroits urbains et occidentalisés que dans les autres. Les nutritionnistes et autorités de santé publique dont la vie fait foi réagissent à ces observations en inculpant tous les aspects de ce qu'ils croient être les modes de vie et d'alimentation occidentaux prédominants de nos jours, c'est-à-dire un régime comprenant beaucoup de viande, d'aliments transformés, de sucre et de calories totales, mais peu de fruits, de légumes et de céréales complètes, ainsi qu'un style de vie sédentaire. Selon eux, c'est en évitant la viande, les aliments transformés et les sucres, en mangeant moins, juste ce qu'il faut, mais principalement des aliments d'origine végétale et notamment plus de fruits, et enfin en faisant de l'exercice que nous nous protégerons de ces maladies et vivrons plus longtemps. Le problème que pose cette approche, c'est que leur postulat de base étant que tout est mauvais dans l'alimentation occidentale, ils peuvent dès lors se contenter de l'incriminer dans sa globalité et estimer qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Cela me rappelle ces inquisiteurs du XIIIe siècle qui, partis pour mettre à sac la ville de Béziers lors de la croisade contre les cathares, s'étaient rendus compte qu'ils ne savaient pas comment distinguer les hérétiques des bons catholiques. « Tuez-les tous !» leur a-t-on intimé. « Dieu reconnaîtra les siens !» Et ils l'ont fait. Et si, au contraire, seuls certains aspects de l'alimentation occidentale étaient mauvais pour la santé, tandis que d'autres étaient parfaitement bénins, voire même bénéfiques? Après tout, le cancer du poumon est lui aussi une maladie occidentale. Pourtant, c'est sur la cigarette que l'on en rejette la responsabilité, pas sur l'alimentation occidentale ni sur la sédentarité. Et la raison pour laquelle nous savons que les cigarettes sont responsables de cette maladie est que nous savons que, contrairement aux fumeurs, les non-fumeurs souffrent rarement d'un cancer du poumon. D'où l'utilité de restreindre la liste des suspects, ainsi qu'on le fait lorsqu'il s'agit d'élucider un crime. Pour commencer, on peut noter que parmi les populations non occidentalisées ayant fait l'objet d'études approfondies, il s'en trouvait un assez grand nombre qui, ne se nourrissant que de viande, ou de viande et de poisson, ne consommaient donc ni fruits ni légumes. C'était notamment le cas des Inuits et des Maasai, et chez qui l'incidence du cancer, de même que des maladies cardiovasculaires, du diabète ou de l'obésité, était très faible, voire nul. Ceci suggère d'une part que ce n'est pas le fait de manger de la viande qui cause ces maladies, et d'autre part qu'une consommation élevée de fruits et légumes n'est pas indispensable pour les prévenir. C'est lorsque l'on commença à étudier de façon concertée les disparités des taux d'incidence du cancer entre sociétés occidentales et non occidentalisées qu'apparut cette idée que manger de la viande était cancérigène, et que des populations isolées étaient protégées de cette maladie par le fait qu'elles mangeaient principalement des végétaux. À l'époque, elle fut écartée pour des raisons pour lesquelles elle devrait l'être de nouveau aujourd'hui. Elle n'expliquait pas pourquoi le cancer était répandu dans des sociétés végétariennes, comme par exemple les Hindous d'Inde, pour qui une marmite de viande est une abomination, et rare, voire inconnue chez les Inuits, les Maasai, les Amérindiens des Grandes Plaines, ainsi que parmi d'autres populations résolument carnivores. Comme le souligne Pollen, il ne fait pas de doute que l'être humain puisse s'adapter à un large éventail de régimes différents des standards occidentaux, allant d'une alimentation d'origine exclusivement animale à une alimentation majoritairement, voire même exclusivement végétarienne. Mais alors, si toutes ces populations étaient relativement exemptes de maladies occidentales, la question qu'il convient de poser en premier lieu est « qu'est-ce qui différencie les régimes occidentaux des régimes de l'ensemble de ces populations, et pas uniquement de certaines d'entre elles, par exemple de celles qui mangent beaucoup de fruits et légumes et peu de viande ?» Il apparaît que la réponse est « les mêmes aliments que ceux qui étaient totalement absents de la nourriture des populations de chasseurs-cueilleurs, chez qui les maladies occidentales étaient également quasi inconnues, à savoir céréales, laitages, boissons, huile végétale, sauce, sucre et sucreries. » Les chercheurs qui étudièrent ces données dans les années 1950 et 1960, parmi eux c'était Thomas Peter Cleave et George Campbell, co-auteurs en 1966 de Diabetes, Coronary, Thrombosis and the Saccharine Disease, que revient le plus grand mérite, observèrent que lorsque des populations jusque-là isolées commençaient à se nourrir à l'occidental, la farine et le sucre étaient toujours les premiers aliments qu'elles adoptaient, car ces marchandises pouvaient être transportées autour du globe sans risquer de s'abîmer ou d'être dévorées en route par des rongeurs ou des insectes. Lorsque les Inuits qui se nourrissaient de viande de phoque, de caribou et de baleine commencèrent à manger du sucre et de la farine sous forme de crackers et de pain, ils virent rapidement apparaître les maladies occidentales en leur sein. Même constat chez les Kikuyu, peuple du Kenya, lorsqu'ils commencèrent à manger du sucre et de la farine. Lorsque les habitants d'îles du Pacifique, qui se nourrissaient de viande de porc, de noix de coco et de poisson, commencèrent à manger du sucre et de la farine blanche, les maladies occidentales firent leur apparition parmi eux. Lorsque les Maasai firent entrer le sucre et la farine dans leur alimentation, ou quand ils s'installèrent dans les villes où ils adoptèrent ce type d'aliments, ils virent également apparaître les maladies occidentales. Même les hindous végétariens qui vivaient en Inde et pour qui les marmites de viande étaient une abomination, mangeaient du sucre et de la farine. Ne semble-t-il pas alors assez sensé de considérer le sucre et la farine comme étant des causes probables de ces maladies ? Parfaitement sensé même, me semble-t-il. Et j'espère que c'est également votre avis. Pourtant, cette approche a été rejetée pour les mêmes raisons que la thèse des glucides adipogènes ou les régimes hypoglucidiques. Parce qu'elle est incompatible avec l'idée que les matières grasses favorisent les maladies cardiovasculaires, idée à laquelle s'étaient ralliés les nutritionnistes des États-Unis. Et parce que ces nutritionnistes ignoraient la portée historique et géographique des données qui mettaient en cause le sucre et la farine. À présent, il nous faut réexaminer la question de savoir si ce sont réellement les matières grasses que nous mangeons qui causent des maladies cardiovasculaires, ou, si ce n'est pas le cas, acquérir une notion aussi claire que possible de ce que c'est. Dans le chapitre suivant, je vais aborder ce que les dernières recherches peuvent nous apprendre sur les origines alimentaires des maladies cardiovasculaires, mais aussi du diabète, du cancer et des autres maladies liées à l'alimentation occidentale, toutes maladies que nous aimerions éviter.